selon le tableau que vous avez devant les yeux. Notre présentation va porter sur trois points: le labourage, le laboureur, la charrue. Alors avec Frédéric, on s'est partagé ces trois parties. Il est possible que on marche un petit peu sur la plate-bande de l'autre, mais ça, c'est pas du tout important. C'est pas grave du tout. Si on cite deux fois le même verset, c'est pas grave du tout parce qu'on ne peut pas épuiser un verset. Et puis un verset peut avoir beaucoup d'aspects. Et l'un faire sortir un aspect, l'autre un aspect, et on n'épuise pas un verset parce que c'est le livre de Dieu. Et comme la nature, il est infini. Donc je vais commencer par le labourage. Je reprends ce verset d'1 Corinthiens 3 qui est quand même assez important, puisqu'il est dit: nous sommes le labourage de Dieu. Ceux qui ont une Bible peuvent l'avoir devant leurs yeux. Et nous avons tous entendu ou nous avons tous lu cette expression de Paul écrivant à l'église de Corinthe, donc aux Corinthiens, réunis en assemblée, et leur disant: vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors ça, c'est une autre image. On ne s'y arrête pas. Vous êtes le labourage de Dieu. Ces images de l'Écriture, nous y passons parfois légèrement dessus, mais aujourd'hui, justement, c'est l'occasion d'approfondir. Et je pense qu'à l'avenir, quand nous lirons ce verset, vous êtes le labourage de Dieu, on se souviendra de ce qu'on a entendu à Fauri. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduit spirituellement, ça veut dire que vous êtes Corinthien, Église de Corinthe, le champ où Dieu travaille. Et c'est beau parce que cette assemblée de Corinthe, ce n'était pas une assemblée en bien bon état, il n'y avait pas mal de problèmes, ce n'étaient pas des hommes spirituels. Il dit au début du chapitre, vous êtes des hommes charnels plutôt, mais il leur dit, vous êtes le labourage de Dieu. Et peut-être chaque assemblée locale, chacune de nos assemblées, eh bien, nous voudrions être le labourage de Dieu dans lequel Dieu travaille. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est extrêmement précieux si dans notre assemblée locale, Dieu travaille. Si nous laissait tomber, ça serait bien pire. Mais peut-être que, comme on l'a vu, je vais insister sur cet aspect du labourage. C'est quand même une action violente, le labourage. Vous avez vu comment le soc de la charrue, et puis vous en avez un, là, justement, c'est une partie de cette brabannette. Vous voyez, c'est comme c'est quand même à serrer, là. Ça déchire la terre. Et il faut bien se souvenir que le labourage est une action violente qui déchire les flancs de la terre. Et la terre répond à cette déchirure par la fécondité, par la fertilité. Et rien que ça, en étudiant le sujet, ces temps-ci m'a beaucoup encouragé personnellement, parce qu'il ne faut pas croire que présenter la parole, c'est une gesticulation de l'esprit. Ah non, c'est que la parole, elle nous fait du bien, le Seigneur nous encourage, et alors à ce moment-là, après, on peut essayer de partager ce bien qu'on a reçu avec d'autres chrétiens, c'est tout ce qu'on désire. Mais il faut que la parole nous ait fait d'abord du bien à nous. Et souvent dans nos vies, justement, nos vies sont bouleversées, déchirées. Il y a de la souffrance, de la peine, des contrariétés plus ou moins prononcées, parfois peut-être des drames ou des maladies, des accidents, des échecs, des chagrins, des deuils. Tout cela, c'est la vie, mais Dieu nous laboure par tout ça. Et ce n'est pas pour le plaisir que le laboureur déchire le sol avec sa charrue, c'est pour des moissons futures. Il en veut le laboureur, et ça c'est la partie de Frédéric. Il voit loin le laboureur. Mais pour le moment, cette action est violente. Alors on nous a demandé de faire un effort pour parler aux enfants de 12-15 ans. Alors, j'ai préparé une petite histoire, j'ai inventé une petite histoire qui pourrait même faire une BD sur Tournesol si j'avais la plume. C'est l'histoire d'un petit mulot, ces rats qu'on n'aime pas beaucoup dans nos jardins parce qu'ils font des galeries et ils coupent les racines. Mais enfin, un petit mulot Il est là, il a fait une galerie dans la terre. Il est juste à l'endroit où la charrue va passer. Et la charrue passe et notre petit mulot, il est renversé, bouleversé par la charrue qui le jette sur le côté et sa galerie est complètement anéantie. Et il est là, même coincé dans la terre. Et il se débat, il gratte un peu, il sort sur la terre et il s'adresse au laboureur. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais de bouleverser ainsi ma terre? Je ne comprends pas. Et le laboureur lui dit, ne te fais pas de soucis, petit mulot. Je travaille pour des moissons futures. Alors nous sommes peut-être comme ce petit mulot. Nous ne savons pas comment le Seigneur opère et bouleverse notre vie et chamboule tout. Et nous levons. Alors, notre visage douloureux est plein de larmes vers notre Seigneur. Et alors nous entendons sa voix nous dire, je travaille pour des moissons futures. Donc, le labourage est une action violente, mais pour du fruit. Et retenons bien cela, moi ça m'a vraiment encouragé en étudiant ce verset, et ça peut nous encourager aujourd'hui. Il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui sont dans la peine, nous le sommes un peu tous. Il y a un jeune, l'avant-dernière rencontre, il a dit qu'il voudrait des réunions gaies et joyeuses. Il n'y a pas que les réunions qu'on voudrait gaies et joyeuses, mais toute notre vie seulement, voilà, elle est belle et bien traversée par la souffrance de notre vie. Et il faut y faire face. Mais pensons que le Seigneur poursuit un but de bénédiction. Vous êtes le labourage de Dieu. Alors, on pourrait poser la question, est-ce que c'est le seul passage où il est parlé du labourage dans un sens spirituel? Non, on va en voir un autre. Sans épuiser les passages, parce qu'on n'est pas là pour jouer à la concordance, mais en Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, verset 9. Alors c'est Dieu qui parle, il parle à son peuple. Car voici, je pense à vous, et je me tourne vers vous. Vous serez labourés, et vous serez semés, et je multiplierai sur vous les hommes, la maison d'Israël tout entière, et les villes seront habitées, et les lieux déserts seront rebâtis. Et je multiplierai sur vous les hommes et les bêtes, et ils multiplieront et fructifieront, et je ferai que vous serez habités, comme en vos temps d'autrefois, et je vous ferai plus de bien que lors de votre commencement, et vous saurez que je suis l'Éternel. On a cette image du labourage. Vous serez labourés, dit Dieu. Et certainement, ça fait allusion à la grande tribulation pour le résidu futur, où il sera labouré par des épreuves. Mais il y aura un fruit béni pour Dieu. Dans Deutéronome 8, nous connaissons ce passage, il est dit « pour te faire du bien à la fin ». Mais là, c'est encore mieux, c'est plus de bien que lors de votre commencement. Et c'est peut-être encourageant aussi pour les personnes âgées et pour nous aussi qui avons une certaine partie de notre vie derrière nous. Mais Dieu peut faire plus de bien qu'à notre commencement. C'est pas beau, ça? J'arrête là pour cet aspect. Je reviens à quelque chose de plus matériel, donc le labourage. Le labourage, finalement, c'est très ancien, le labourage. Et dans la Bible, la première fois qu'il en est parlé, c'est dans le livre de la Genèse. Il est dit, chapitre 4, verset 2, et Ève enfanta encore son frère Abel, et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre. Alors, je crois que Frédéric va nous parler d'un autre passage, parce qu'il est dit que Adam, dans le jardin, donc avant la chute, était là pour deux choses, garder le jardin et le cultiver. Bon, donc déjà, il grattait le sol. Mais explicitement, il est dit, en tout cas en français, que Caïn labourait la terre. Et c'est très intéressant ces deux passages, parce que Adam cultivait un sol riche, béni, prospère, fertile, où il n'y avait pas de mauvaises herbes, et Caïn, après la chute, cultivait un sol ingrat, un sol où il y avait des épines et des ronces, et un sol maudit, parce que Dieu a maudit le sol. Il n'a pas maudit l'homme. Non, il a maudit Caïn, qui est une image de l'Antéchrist, ça c'est autre chose. Mais il a maudit le sol. Et Caïn est obligé maintenant de labourer la terre, une terre ingrate, à la sueur de son visage. Ça c'est nouveau, avant la chute. Il n'y avait pas la sueur. Il n'y avait pas la peine du travail. Il labourait la terre. Alors, si on suit un petit peu dans la Bible, On voit que le labourage était pratiqué en Israël, largement pratiqué. Je lis simplement deux ou trois versets qui en témoignent et qui nous apportent quelques précisions. Autre. Exode 34, on a une ordonnance de Moïse à son peuple. Exode 34, verset 21. « Six jours tu travailleras, et le septième jour tu te reposeras. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. » Et les paysans d'autrefois, surtout quand il fallait faire tout à la main, eh bien, c'était très pressant. Le temps du labourage et le temps de la moisson, on n'avait pas beaucoup de temps. Mais Dieu dit à son peuple, « Tu te reposeras même en ce temps-là. » Et d'ailleurs, ce passage est intéressant aussi, avec le suivant, où le labourage et la moisson sont associés. Le laboureur, il laboure en vue de la moisson, pas pour s'amuser à rayer le sol et même à faire un beau labour. Alors, le second passage, c'est dans le livre des Proverbes. Il y en a d'autres, mais on en cite seulement quelques-uns. Proverbes chapitre 20, Proverbes 20, verset 4. « À cause de l'hiver, le paresseux ne laboure pas. Lors de la moisson, il mendiera et n'aura rien. » Alors, dans ce passage, c'est aussi intéressant parce qu'il y a cette association juxtaposée du labourage et de la moisson, même si les deux sont séparés pendant 10 mois. Et Frédéric va nous parler des vertus du laboureur. Et là, dans ce passage, on voit aussi qu'on laboure en hiver. Ici, c'est au mois d'octobre, mais déjà les jours sont courts, fin septembre, début octobre. Les jours sont courts, il peut faire très froid. Comme on nous l'a dit, des fois il faut prendre la canadienne, pour ne pas dire le passe-montagne, et les gants. Et le paresseux, lui, il ne veut pas avoir froid. Il reste chez lui, au chaud, il ne moissonnera pas. Et le labour est un travail pénible aussi, et long. Vous avez vu, un sillon après l'autre, le champ se laboure, et j'ai pas pratiqué la chose, mais enfin j'en ai entendu parlé par notre père. Et non, je n'ai pas connu ça parce que notre père avait acheté très tôt avant qu'on naisse, quelques années avant qu'on naisse, un petit tracteur, un pony qui venait d'Amérique, bien sûr. On n'a pas eu que la libération des Américains, on a eu tout le matériel. Tout ça, ça venait d'Amérique, donc les bœufs étaient déjà abandonnés quand on est né. Mais papa en parlait et nous racontait, et les anciens qui sont là l'ont vécu, qu'il se levait pratiquement avant le jour, les jours en octobre sont déjà courts, et allait faire une lia. C'était une bande, tous les matins, une bande. Il me semble quand même que le laboureur, peut-être maison par maison, faisait tant de sillons tous les jours. Et puis après, au bout de tant de sillons, bon, 15 ou 25, mettons, et l'attelage était fatigué, il fallait rentrer à la maison et puis faire le travail, traire les vaches, enfin, celles qui avaient tiré n'en avaient pas beaucoup, mais ça c'est une autre affaire, elles rendaient du travail. Avant l'école, il fallait faire la lia, je ne prononce pas bien. Bon. Donc c'était un travail long, c'était un travail pénible, et ça se fait en hiver, en pleine, tout l'hiver même, des labours d'hiver. Un autre verset, et celui-là, profondément émouvant. J'ai dit tout à l'heure, le labourage était une action violente, avec ce soc qui déchire la terre pour faire des sillons. Et il est tellement violent, ce labourage, qu'il servira de symbole à notre Seigneur Jésus pour parler de ses souffrances, au psaume 129. Alors ça, c'est un verset extraordinaire. Ça fait partie des choses qu'Israël doit dire et que nous devons dire. C'est le Messie qui parle, c'est un psalmiste, mais c'est le Messie derrière l'Esprit de Christ en eux. Ils m'ont souvent opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Oui, il faut le dire encore aujourd'hui. Ils m'ont souvent opprimé dès ma jeunesse. Cependant, ils n'ont pas prévalu sur moi. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé leur long sillon. Cette image fait certainement allusion au fouet, à la flagellation que le Seigneur Jésus a reçue. C'est lanière de cuir qui s'abattait sur le dos de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est terrible. Ça faisait jusqu'au sang. les flagellés, ils avaient le dos en sang. Et ça faisait comme des sillons, ces lanières de cuir. Le Seigneur Jésus a reçu cela avant la croix. Pilate l'a fait fouetter. Et pourtant, il avait dit qu'il était innocent. Mais puisque l'Esprit de Dieu emploie cette image du sillon, j'aime à penser au résultat de ces souffrances du Seigneur Jésus. Et selon les beaux vers de Victor Hugo, que vous connaissez peut-être, les enfants, je ne sais pas si on les apprend encore, mais il m'en reste encore quelques bribes de ce célèbre poème quand il dit que le semeur jette à foison la moisson future au sillon. Alors, pensez que ces sillons, voilà, sur le dos du Seigneur Jésus, symboliquement, c'est une image de sa souffrance, mais aussi des résultats de sa souffrance, parce que nous ne serions pas là dans cette grange s'il n'avait pas souffert. Et est-ce que c'est seulement ces longs sillons, seulement sur le dos du Seigneur Jésus? Non, non, non. L'apôtre Paul aurait pu montrer son dos, et il le montre aux Galates, de la lettre aux Galates, dans un ton énergique, presque, je dirais presque exaspéré, parce que les Galates, avec leur état insensé, s'écartant de la grâce de Dieu, que Paul avait prêché, l'évangile de la grâce, Paul dit, désormais, que personne ne vienne me troubler, parce que moi je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus. Et il aurait pu enlever, pas sa chemise, mais sa tunique ou sa robe, et montrer son dos. J'ai été frappé de 40 coups moins un. Alors Galate, pensez un petit peu. J'ai quand même le droit de vous parler. J'ai souffert pour vous apporter l'évangile. Et maintenant vous vous détournez de l'évangile de la grâce. Et dit, terré dans son dos, il les appelle les marques du Seigneur Jésus. Extraordinaire. Les marques du Seigneur Jésus. Comme représenter celles que le Seigneur Jésus avait eues sur son dos. Je passe le relais à Frédéric avec le laboureur.